images et tout et tout. Donc là aussi, je vous propose de belles images, mais j'essaierai de commenter les raisons qui nous ont fait inscrire tel ou tel sujet dans notre programme de cette année. Donc on y va. Un petit rappel de l'année dernière, où on était encore en grande difficulté. Là, il y a marqué année 2022-2023, mais c'était plutôt l'année 2021-2022. La fin de l'épisode de Covid a laissé quand même quelques traces. Et donc, on a utilisé les masques, mais globalement, on a réalisé le programme tel qu'il était prévu à l'origine, pour l'essentiel. Et donc, on a des difficultés comme toutes les associations culturelles, associations de quelque nature qu'elles soient, donc on a une baisse des adhésions, et donc vous savez que notre seule ressource, c'est la totalité des cotisations. Si les cotisations baissent, évidemment, on sera en déficit significatif cette année, enfin pour l'exercice passé. Je rappelle que à l'UTB, les exercices comptables, c'est du 31 mai au 1er juin de l'année suivante. Voilà. C'est à peu près l'année scolaire, si vous voulez. Hein. Et c'est pas une année civile, puisque c'est pas significatif par rapport à notre activité. Donc nous espérons cette année revenir dans des conditions tout à fait normales. D'ailleurs, je vois très peu de masques. Effectivement, si des gens souhaitent maintenir leur masque, il n'y a aucun problème. C'est leur choix personnel. Alors, comme tous les ans, nous essayons d'avoir des thèmes un petit peu en diagonale sur l'ensemble de la programmation. Et on a choisi cette année, c'était pas un choix bien difficile à faire, le mot magique, c'est Molière. Molière, vous savez que ça va être un anniversaire cette année, et donc on aura des conférences autour de Molière, et en particulier la biographie de Molière, donc au début de la saison. Et donc on a essayé d'élargir Molière, donc c'est ce qu'on appelle le grand siècle, hein, c'est comme le disait Voltaire, donc le siècle de Louis XIV. Mais le siècle de Louis XIV, au-delà de la France, dans l'ensemble de l'Europe. Donc voilà les thèmes, l'histoire de l'art, toujours pendant le grand siècle, Molière, le grand siècle, théâtre et musique, la vie sous Louis XIV, le retournement de 1900... Alors, là, ça n'a rien à voir avec le grand siècle, on continue la chronologie de la guerre, effectivement, et donc on a passé la pointe des grands succès de l'Allemagne dans la guerre, et donc là on commence à partir de 1943 au retournement de la situation. Donc on aura des conférences d'historiens qui nous font ça depuis le début de l'événement. On va parler des provinces unies, puisque voilà un cas typique d'un miroir du siècle de Louis XIV, et vous savez que Louis XIV a été impliqué dans des guerres contre les provinces unies ou avec ou contre les provinces unies, on en parlera largement. La géopolitique, évidemment, c'est pas difficile de choisir le sujet, puisqu'en ce moment, il se passe des choses, vous avez remarqué. Je rappelle qu'au mois de mai, ça devait être le 1er mai, ou 1er avril, je me souviens plus, ou fin mai, non, fin avril, on a eu une magnifique conférence sur l'Ukraine. On a eu 235 personnes dans cette salle. Et donc, pour ceux qui y étaient, là, c'était génial. Histoire de la presse et du livre. Alors, on a pris ce sujet parce qu'il y a aussi une connexion avec le grand siècle. On peut dire que le début de la presse, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est à cette époque-là que ça a un petit peu émergé. Et on a toujours... dans les sciences et techniques, on va parler beaucoup des sciences de la vie. Alors, on y va. Histoire de l'art. Donc, la présentation est classée par thématique, comme elle l'est dans le catalogue. Hein. Donc, on y va. Alors évidemment, le XVIIe siècle, ben on peut pas échapper au baroque. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il faut qu'on en parle. Et donc, Monsieur Curnier-Laroche, je rappelle que certains d'entre vous le connaissent, un excellent conférencier, et accessoirement le curé de Saint-Celgrand, qui est diplômé jusqu'à la tête des meilleurs diplômes d'histoire de l'art. Donc, l'architecture de baroque. Alors, en architecture, on a un deuxième conférencier qui vient maintenant depuis plusieurs années et qui plaît beaucoup à notre public. C'est un architecte qui est en activité à Saulieu et qui a une quarantaine d'années, qui parle très bien et qui nous fait l'architecture moderne compris dans le sens de l'entre-deux-guerres et post-guerre. Donc voilà la Villa Sayer de Marcel Breuer et Le Corbusier. Le Corbusier nous en a déjà parlé plusieurs fois puisqu'il est un petit peu incontournable dans le domaine de l'architecture. Alors, notre amie Claudie Roger, pour ceux qui la connaissent, elle nous a demandé de traiter ce sujet. Alors, c'est pas un sujet d'histoire de l'art au premier degré, de parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, il y a beaucoup à en dire. Aujourd'hui, on le considère comme une œuvre d'art. Sachez qu'à l'époque, effectivement, ça a été très contesté, la construction de cette tour. Et donc la Tour Eiffel, elle se situe dans une dynamique des expositions universelles qui ont commencé au milieu du 19e siècle. Et donc là, c'est, comme vous le savez, la Tour Eiffel a été faite pour l'exposition de 1889, qui était l'anniversaire de la Révolution française. Et donc on parlera des autres réalisations de Gustave Eiffel et les ponts, bien sûr. Il en a fait beaucoup, mais également la structure interne de la Statue de la Liberté à New York, qui a été faite par les ateliers Eiffel. Alors, notre ami Capellazzi, notre vedette d'histoire de l'art, va nous faire, puisqu'on a fait un peu la liste de tout ce qu'il nous a fait depuis qu'il vient, depuis plus de 10 ans, et avec grande surprise, on a découvert que ces deux vedettes, Botticelli et Michel-Ange, manquaient à l'appel. Donc évidemment, on a coché les cases et on ne doute pas qu'il va nous régaler avec ces deux thèmes. Alors, XVIIe siècle, architecture et ruines imaginaires au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est à cette époque-là que dans l'art pictural, ce type de tableau est apparu et a proliféré complètement, et il y a des ressorts philosophiques et psychologiques derrière tout ça, en disant ben on remet à l'honneur finalement les anciens qu'on avait un petit peu oubliés. Tout était en ruine parce que tout le monde s'en fichait, et tout d'un coup il y a le début d'une prise de conscience des œuvres des anciens. Et on va parler du dadaïsme. Alors ça, c'est dans la continuité des mouvements artistiques du XXe siècle. Le dadaïsme, c'est le précurseur, d'une certaine façon, du surréalisme. Et donc, Monsieur Cousin nous en parlera. Alors, Mathieu Pinette, vous connaissez tous Mathieu Pinette, même ceux qui ne sont pas à l'UTB. Mathieu Pinette, c'est le propriétaire du château de Germolles, qui nous fait des conférences depuis 15 ans et qui a toujours ses 4 conférences le vendredi à 14h30, puisqu'il a un agenda de ministre. Et donc, quoi qu'il arrive, il a ses cases libres le vendredi à 14h30, parce qu'il faut qu'il casse tout le reste de ses activités. Et donc il a pris un sujet un petit peu curieux, on a été surpris quand il nous l'a proposé, c'est ce qu'il appelle les petits formats. On est habitué dans les musées à voir des toiles gigantesques ou de taille, on va dire, normale, mais il y a aussi des miniatures et des choses toutes petites. Et la thèse qu'il veut défendre à travers ce cycle de conférences, c'est de dire on peut avoir un chef-d'œuvre dans un petit format. Bon, les miniatures, on le sait, mais il y a quelques autres... on va découvrir, si vous voulez, un certain nombre d'œuvres et l'intérêt, si vous voulez, c'est de... effectivement, d'explorer des zones méconnues de tous ceux que vous voyez ici, donc Prudhon, Millet, Manet et Serrusier. Hein. Vous voyez, Édouard Manet, il a peint une asperge. Alors vous allez me dire, je vais venir écouter une conférence sur l'asperge. Non, certes, on va parler de l'asperge, mais pourquoi faire une asperge? Donc c'est ça qui... Il ne veut, parlera pas que de l'asperge, bien sûr. Ensuite, alors, voilà un des premiers surréalistes. Max Ernst, et donc c'est Françoise Rasselhoff qui... va nous faire cet exposé, puisque sa spécialité, c'est un petit peu les surréalistes, d'une façon générale. Comme elle fera par ailleurs une conférence sur André Breton, c'est toute cette mouvance surréaliste qui est postérieure au dadaïsme et qui sera évoquée. Et donc, hein, et je reviens sur Claudie Roger. Claudie Roger fait 4 conférences, donc il y en aura 2 sur Eiffel et 2 autres sur les affiches anciennes. Je rappelle pour ceux qui sont des anciens de l'UTB, c'était un petit peu son fonds de commerce, si vous voulez. Et le fait que les artistes, que les affiches, on va dire de la 1870 à 1920, étaient considérés comme des œuvres d'art à part entière. Bon, la photo a un peu tué l'affiche en tant que l'affiche de graphiste, même s'il y en a encore un petit peu, mais l'âge d'or des affiches de ce style-là, d'ailleurs vous voyez une femme habillée à la garçonne, donc ça sent les années 20, hein, juste en voyant l'affiche, eh bien, il y a beaucoup à dire. Alors, nous avons notre conférencier spécialisé dans l'art contemporain. Alors, l'art contemporain, quelquefois, ça a une connotation très négative. On a fait beaucoup de peintres essentiellement français, ou d'origine française, et là, il a pris deux artistes étrangers. Baselitz, qui est un Allemand. Vous voyez là, on voit pas bien de quoi il s'agit. C'est un oiseau qui est en train de tomber. Il est plus ou moins déplumé, mais c'est présenté d'une façon très curieuse. Et puis Damien Hirst, c'est un Britannique qui fait des choses un peu déjantées, comme vous pouvez le voir derrière sa tête. Voilà. J'ai pas appuyé sur le bouton là. C'est fait. Alors, Anne XP, je rappelle qu'elle n'a pas fait les conférences qui étaient prévues la saison dernière parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et donc, elle nous a reproposé un des thèmes qui était prévu l'année dernière, qui est l'image numérique et le web art. Pour ceux qui aiment ce style d'imagerie, si vous voulez, très particulière, des dessins faits par ordinateur, eh bien là, Internet en est rempli. Et c'est un océan sans fin. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir une petite synthèse sur ce qui se fait dans le domaine. Alors jusqu'à présent, pour l'essentiel, je ne vous ai cité que des conférenciers qui sont des habitués de l'UTB. Mais un des grands sports de l'équipe de l'UTB, c'est la chasse aux nouveaux conférenciers. Et donc, je vais vous annoncer dans quelques minutes, on a deux gros poissons qu'on a ferrés, et encore le dernier, le dimanche dernier, parce que les conférenciers très occupés, on ne les joint que le dimanche matin, évidemment. La semaine, ben, ils font d'autres choses et ils sont totalement inaccessibles quand ils ne sont pas protégés par une armada de secrétaires qui vous envoient bouler sans autre forme de procès. Donc, c'est pour monter un petit peu la tension, je vais vous annoncer des scoops absolument extraordinaires, évidemment. Ah, voilà un premier conférencier qui, c'est monsieur Sylvain Besson. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Sylvain Besson, c'est le numéro 2 du musée Niépce. Et c'est en particulier un spécialiste de la photo de mode. Et on lui a demandé de faire, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est la première fois depuis que je suis là que l'on a un conférencier du musée Niépce. Ça manquait un petit peu dans notre panel, si vous voulez. Donc on a pris contact avec lui, il a bien voulu, sans aucun problème, parler de l'histoire de la photo de mode, mais il a dit, je vais le faire avec les collections, puisque vous savez que le musée Niépce est propriétaire d'un certain nombre de photos, et ils ont une collection absolument superbe, et donc il utilisera pas les photos qu'on a vues sur tous les magazines, ici ou là, hein, féminins ou autres, mais là, des photos qui viennent directement des studios, des photographes de mode. Voilà, donc je pense que ce sera intéressant. Un autre conférencier, il est déjà venu l'année dernière. Alors là, c'est un artiste, dans tous les sens du terme, il s'appelle Jean-Jacques Astruc, qui est musicien, hein, et il nous a fait, l'année dernière, Leonard Cohen. Alors, Leonard Cohen, ça a été un grand moment de café-théâtre, on va dire. Hein. Il est très bon pour faire, alors qu'il dit « je ne suis pas conférencier professionnel », heureusement, mais pour présenter ce type d'artiste, il faut être un petit peu artiste soi-même. Et donc, il nous a fait un numéro sensationnel. Mais il était frustré parce que dans la liste de ses conférences, il avait mis en numéro 1 Bob Dylan. Et alors, on a dit, bon, ben allez, tu vas le faire, Bob Dylan. Hein? Et, ah, bon, enfin, je vais faire Bob Dylan parce qu'il est aux anges. Je rappelle Bob Dylan, il est toujours vivant, comme sa copine de jeunesse, Joan Baez. Hein, et je pense qu'il en, bien sûr, il en parlera. Alors personnellement, Bob Dylan, je n'ai pas d'avis particulier dessus. Moi qui est censé comprendre l'anglais, quand j'écoute ses chansons, je ne comprends absolument rien à ce qu'il chante. Mais il grommelle entre ses dents. Et en plus, il a un harmonica devant la bouche. Ce n'est pas facile de capter tout ce qu'il raconte. Bon, mais je ne vais pas faire la conférence. On écoutera M. Astruc. Revenons au grand siècle quand même, hein. On a quitté Molière, donc qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Eh bien, c'est les prémices de l'opéra. Hein. À l'opéra à la Lully, si vous voulez, hein, bien sûr, ou l'opéra italien, donc on va voir donc Madame Farin, que vous connaissez bien, qui est une musicologue et qui est très agréable à écouter. Faire des conférences de musique, c'est difficile. Alors, bien sûr, on passe de la musique, mais en parler d'une façon savante et intéressante, c'est pas donné à tout le monde. Alors, elle est très bonne, hein, et c'est pour ça qu'elle est... D'ailleurs, elle nous a dit l'année dernière, elle a dit « Vous êtes la seule université pour laquelle je fais encore des conférences parce que je vous adore. » Donc, merci, Madame Farinck. Voilà. Elle a laissé tomber Dijon, elle a laissé tomber toutes les autres universités pour tous, sauf Chalon. Voilà. Donc, si nos atomes restent crochus, eh bien, Madame Farin continue à faire ses interventions. Voilà. Et alors, dans nos malheurs avec le Covid, on connaît très bien notre ami Jean-Luc Fevra, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui était, initialement, il était régisseur du conservatoire, il s'occupait de l'intendance de la Seine, et maintenant il a changé de poste, il s'occupe la bibliothèque musicale, et accessoirement, il joue de la viole de gambe et également du théorbe. Le théorbe, c'est ce que vous voyez à l'image là. C'est une espèce d'énorme luth, si vous voulez, mais à grand manche, et avec, je ne sais plus combien il y a de cordes, 12 ou 18 cordes, vachement compliqué à jouer, et il sait jouer de ça. Donc il nous expliquera quelle est cette chose-là. Ça a failli se faire au printemps. Et deux jours avant sa conférence, il m'appelle, j'ai le Covid. Zut alors, hein. Donc évidemment, on l'a reporté à l'automne. Hein. Notre ami Hubert Humeau. Alors pour les habitués, alors là, c'est aussi en valeur de café-théâtre, c'est Monsieur Astruc au cube. Hein. Là, il nous a fait, c'est un chanteur lyrique, maintenant il vient de prendre sa retraite, et il nous a fait des numéros extraordinaires avec le Barbier de Séville, où il a chanté a cappella, il a fait chanter toute la salle, ici. C'était un happening absolument extraordinaire. Donc c'est aussi un technicien du chant choral, et donc il explique, et j'ai mis volontairement notre ami Alagna, vous connaissez tous, hein, qui a la particularité d'être un chanteur qui articule, et c'est l'antithèse de Bob Dylan. Hein, c'est-à-dire quand vous l'écoutez chanter de l'opéra, vous comprenez les chansons, les paroles qu'il prononce. Dans 80% des cas, on ne comprend rien au chanteur d'opéra. Lui, quand il chante en français, et même en italien, mais enfin en français, vous comprenez ce qu'il chante. Vous le voyez dans Carmen, eh bien, vous pouvez comprendre tous les mots qu'il prononce. Ah, musicologie, toujours la musique, eh bien, je rappelle que notre ami Stéphane Varney, qui est maintenant numéro 2 du conservatoire, il est directeur adjoint, je ne l'ai pas remis là-dessus, mais maintenant il a été nommé directeur adjoint, parce que Monsieur Lorca, qui est le directeur, il a une double casquette, il s'occupe de l'école Fructidor maintenant. Et donc, on met une heure, une œuvre et conférence illustrée, tout simplement parce qu'au moment où je vous parle, ni l'œuvre dont il va parler, ni la conférence qu'il va faire ne sont fixées. Puisque, en fait, il choisit ces deux thèmes en fonction de la programmation de l'année. Alors, une heure, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, en général, c'est le vendredi soir à l'auditorium du conservatoire, et c'est une conférence-concert, si vous voulez, avec les musiciens qui vont se produire le samedi après-midi ou le samedi soir, mais devant le public normal. Donc, par exemple, si vous avez un quatuor, eh bien, ça. Et donc, le vendredi soir, Stéphane Varney commente des extraits de tel mouvement et explique tout ça avec la formation qui fait des petits clips, hein. Et bon, c'est toujours très sympathique et ça marche de mieux en mieux. Bon, avec le Covid, ça, on a un peu. D'ailleurs, la première année du Covid, il nous avait fait spécialement pour nous, il nous avait pris en vidéo une conférence illustrée, mais sans public, parce qu'on était, on pouvait pas venir. Donc, on reprend cette formule qui plaît beaucoup. Voilà, on en a fini avec l'art, en tant que grande famille de conférences, et donc on attaque l'histoire, deuxième pilier de notre programmation. Alors, de l'histoire, il y en a pour tous les goûts, de la vieille, de la récente, etc., etc. Donc on va les passer en revue. Et voilà un nouveau conférencier qui n'est jamais venu chez nous, qui vient de Lyon, plutôt spécialiste de la mythologie et de la Grèce antique, mais il a d'autres sujets à son arc, et dans toute sa liste impressionnante de conférences, on a choisi la Sicile normande, donc le XIIe siècle, donc quand les ducs d'Anjou ont occupé la Sicile et on fait la basilique de Montréal, dont vous voyez le chœur dans le style byzantin est tout à fait extraordinaire. Peut-être certains d'entre vous ont visité ce lieu, mais c'est intéressant d'écouter ça. Donc M. Minakori, en fait, on l'a connu grâce à l'UTB de Monceau, puisque depuis plus de 10 ans, il vient régulièrement à l'UTB de Monceau, plutôt pour parler de mythologie. Alors, sujet bizarre, les sorcières. Pourquoi le sujet est bizarre? Parce que, et je pense qu'elle nous expliquera, Monique Roux, ces histoires de sorcières, il y a eu, on va dire, je fais un mauvais jeu de mots, une poussée de feu au XVIIe siècle. Et on a un peu de mal à comprendre pourquoi. Pourquoi cette histoire d'acharnement contre les sorcières se situe au grand siècle? Vous viendrez l'écouter, vous allez apprendre ça. Il y a d'autres auteurs qui ont fait des analyses sur ce point-là du point de vue anthropologique, mais on fait bien une association entre les sorcières et le XVIIe siècle. Je rappelle un film célèbre, c'est pas en France, Les sorcières de Salem, hein, qui est très connu, c'est exactement la même thématique. Les histoires de sorcières, c'est toujours au XVIIe siècle. Mais il y en avait avant, mais on n'en parlait pas, parce que ça paraissait aller de soi. Alors que là, c'est devenu médiatique, si vous voulez. Et il faut expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au XVIIe siècle? Le jansénisme. Alors, ce mot est bizarre, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait, le jansénisme. Donc, M. Philippe Clemenceau, il y tient beaucoup, donc qui est un peu spécialiste de l'histoire des religions, c'est nous qui lui avons demandé de traiter ce sujet parce que c'est pas facile à comprendre. Hein. On dirait aujourd'hui c'est des catholiques intransigeants, catholiques intégristes, on dirait, si on voulait utiliser un mot moderne pour caractériser cette chose-là. Mais comme il faisait de l'ombre à M. Louis XIV, Louis XIV a été sans pitié contre cette secte et il l'a détruite, hein, on le sait très bien, et il ne reste plus qu'à Notre-Dame-des-Champs, un petit reliquat de ce que ça a été. Et en plus, Notre-Dame-des-Champs, ça avait le mauvais goût d'être juste contigu au château de Versailles. Alors ça, vraiment, avoir ce caillou dans la godasse, il ne pouvait pas le supporter. Donc il a fait ce qu'il fallait pour les détruire. Donc, c'est intéressant de comprendre ce qu'était le jansénisme. Le jansénisme, d'ailleurs, je pense qu'il en parlera, s'est disséminé après dans les parlements, c'est-à-dire, c'était l'opposition, on va dire, au pouvoir royal absolu. Et c'est les jansénistes, d'abord, qui ont fait foutre les jésuites dehors au milieu du XVIIIe siècle, mais ça c'est des règlements de compte à Hockey-Corral, hein, mais surtout qui ont bloqué toutes les réformes que Louis XVI avait voulu faire avant la Révolution, les réformes fiscales qui ont conduit finalement à la Révolution. Mais je pense qu'il en parlera dans sa conférence. La société, le grand siècle, c'est la société du spectacle, c'est-à-dire la vie de cour, c'est un spectacle, aussi bien pour le roi qui se met en scène que pour tous les nobles qui sont autour de lui. Donc, la société du spectacle, c'est vraiment le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a Mazarin, évidemment. On a pris Mazarin puisqu'on a fait Richelieu l'année dernière. Et pourquoi Mazarin? C'était le père, on va dire, affectif de Louis XIV. Je rappelle que Louis XIV s'est effondré sur son lit de mort. Il était adolescent à ce moment-là quand il est mort. Et il perdait son vrai père, quoi, on va dire. Mais Richelieu, on l'a beaucoup critiqué dans les livres d'histoire, merci monsieur Mallet-Isaac, ça a été quand même un grand ministre pour la France après Richelieu, il a amassé une grosse cagnotte et il a donné, enfin il a donné, sa fameuse bibliothèque, qui s'appelle aujourd'hui la bibliothèque Mazarine, évidemment, eh bien, vous allez avoir une conférence, c'est un petit peu plus loin, c'est la suivante. Vous allez avoir M. Yann Sordet, qui est déjà venu l'année dernière, et c'est le directeur de la bibliothèque Mazarine, major de l'école des Chartes, qui est un très bon conférencier, qui va nous parler de cette chose-là. Évidemment, je vais lui soutirer une visite guidée par lui-même de la bibliothèque Mazarine. Hein ? Alors, le XVIIe siècle, un petit coup de Bussy Rabutin. On a fait ça il y a une dizaine d'années. Il y a le château de Bussy, qui est une merveille. Donc, on a demandé ça à Léna Vasek, qui nous a fait les ducs de Bourgogne. Donc, elle est affûtée tout à fait sur ce sujet-là. « Ah, vous voulez Bussy Rabutin ? Vous êtes sûr ?»« Ah oh, bon, bah, alors, si vous me le demandez, bah, je veux bien le faire. » Voilà, bon. Bien comprendre le contexte de Bussy Rabutin, le cousin, un des cousins de Madame de Sévigné, comme vous le savez. Et on fera une visite du château, bien sûr, qui est un bijou. Alors, on ne parle que des gens célèbres. Mais il faut parler aussi du petit peuple. Et vous savez tous que le siècle de Louis XIV, c'était pas le grand siècle pour les paysans. Les impôts, les conditions climatiques, les famines, et tutti quanti, donc c'était très, 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 très dur. Et alors, initialement, cette conférence était prévue par M. Vion-Delphin, vous savez, le conférencier qui vient de... Mais il a eu le mauvais goût de décéder. Au printemps là, et donc je voulais pas abandonner un petit peu ce sujet. J'ai demandé que ce sujet soit traité par Monsieur Lécuyer. Monsieur Lécuyer, c'est un conférencier qui nous a fait un cycle sur l'antisémitisme et tout ce qui tourne autour. Excellent conférencier également. Hein. Donc il a accepté. Et voilà les Provinces Unies. Alors, comme disait Richelieu, je cite mes sources, il a dit « J'arrive pas à comprendre qu'un pays où il n'y a rien, c'est tout plat, le pays plat, hein, comme disait Jacques Brel, les gens mangent deux fois mieux à leur faim qu'en France, ils n'ont aucune ressource, et c'est le pays le plus prospère de l'Europe. » Alors, on sait bien pourquoi, c'était la colonisation, c'était le commerce négrier, sinon le commerce des épices, hein, bien sûr. Mais, les Provinces Unies ont eu leur heure de gloire, c'est au XVIIe siècle, et avant que la puissance montante qui allait les supplanter, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, leur fasse la guerre plusieurs fois et finissent par les museler dans leurs ambitions coloniales, sinon commerciales. Donc c'est Geneviève Guérin qui nous parlera de ça. Alors très souvent, on a déjà eu des conférences sur les Provinces Unies, sur la partie artistique. Donc les peintres hollandais et tout ça, et on dit, ben, ah oui, il y a des peintres, c'est extraordinaire. Mais on explique peu les raisons qui faisaient qu'il y avait ça. Donc je pense que Mme Guérin l'expliquera, et c'est la prospérité économique, si vous voulez, qui va être le ressort de cette floraison artistique. Alors Mme Guérin nous a proposé également de parler des guerres d'Indochine. On a découvert avec stupéfaction qu'on n'en a jamais parlé à l'UTB. Alors c'est quand même bizarre ça. Comment se fait-ce que d'abord la France est allée mettre ses pieds là, et que quel est l'imbroglio qui s'est passé pour son implication dans les guerres que vous connaissez tous, et ensuite on a refilé le bébé aux Américains qui s'en sont pas mieux sortis. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et là, on réinvite à nouveau Madame Geneviève Guérin, qui nous avait enchanté. Je rappelle que Madame Geneviève Guérin, elle habite à Lorient. Alors, c'était le Covid, on dit, on ne veut pas vous faire venir dans les conditions compliquées. Donc, on a fait ces conférences en visioconférence. C'était tellement bien qu'on lui a demandé, un mois après, on lui en a redemandé une. Et dans ces conférences, j'ai au moins appris quelque chose, c'est que pourquoi Lorient s'appelle Lorient ? Ben parce qu'à Lorient, on va en Orient. C'est aussi bête que ça. Avant que la ville existe, il n'y avait pas, Lorient n'existait pas. Donc, quand on a fondé la ville, ben on l'appelait Lorient. C'est pas... bon, pourquoi pas, après tout. Hein. Et donc, elle fera à nouveau en visioconférence, puisqu'on a testé la technique, et maintenant, on peut passer la conférence, si vous voulez. On la voit qui parle à l'écran, et elle passe ses diapositives en même temps. Et on a choisi deux sujets, puisqu'elle s'occupe... Parce que à Lorient, il y a un musée de la Compagnie des Indes, dont je ne connaissais pas l'existence, et elle travaille dans ce musée. Et on a choisi le café, vous reconnaissez, et la porcelaine, qui sont des apports, disons, extrême-orientaux ou africains, puisque le café vient d'Afrique, initialement. Ça, on ne pouvait pas échapper à Taïwan, hein. Alors, le programme, je rappelle, on le fait, allez, au mois d'avril de l'année passée, hein, enfin de cette année. Donc, au mois d'avril, il y avait déjà le début de la guerre d'Ukraine, mais on ne parlait pas plus que ça de Taïwan. La température est montée, donc ce n'était pas une grande prédiction d'imaginer que ce sujet prendrait de l'ampleur. Donc, les tensions géopolitiques, ben, il faut parler de ça, mais surtout parler de l'histoire de Taïwan. D'ailleurs, je pense que ce ne sera pas fait dans cet ordre-là. On va passer, parce que Taïwan n'a pas toujours fait partie de la Chine, contrairement à ce que la Chine continentale dit. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on aura une histoire de Taïwan pour bien resituer tout ça. Alors, autour de la guerre, on va parler de la résistance. On n'en a pas encore parlé, on a parlé des événements guerriers, on a parlé du régime de Pétain l'année dernière, et donc on va parler de l'histoire de la résistance, qui est une histoire extrêmement compliquée. Et donc, bon, ben, venez écouter donc en deux séances, et donc c'est Robert Kasprick. Et il a dit, j'accepte de la faire parce que pour me racheter du fait que j'ai pas dit trop de mal de Pétain, et on va me présenter comme un pétainiste avéré, ce qui n'est pas vrai. Il a fait une conférence très équilibrée où on montre que le régime de Pétain, bon, ben, c'était gris sombre, certes, mais quand même gris, tout n'était pas si blanc et noir que ce qu'on a pu dire après la guerre, évidemment, mort ou vaincu. Donc on a fait porter le chapeau, à juste titre, d'une certaine manière, à Pétain de toutes les turpitudes passées. Et donc pour couronner le tout, évidemment, De Gaulle et Pétain, une tragédie shakespearienne, je crois que le titre est excellent, et c'est François Kersaudy, que vous avez déjà écouté plusieurs fois ici, qui est un excellent conférencier, un spécialiste de Churchill et de Gaulle, et accessoirement de Pétain. La guerre, donc, on va dire la Shoah. Alors la Shoah, j'ai toujours refusé avec obstination. On m'a proposé des dizaines de fois des conférences sur la Shoah. Les magazines, la télévision, les ouvrages, il y en a des montagnes. Et de proposer des conférences, donc il faut le faire au bon moment et sur un créneau ciblé. Donc, M. Lécuyer m'a dit, je vais essayer de vous expliquer quels sont les mécanismes idéologiques et psychologiques qui ont conduit à ce qu'on a connu. Chose qu'on gomme toujours un petit peu en disant c'est les méchants, et ils ont... mais c'est un peu court comme explication, si vous voulez. Voilà. Donc, on vous fera grâce des détails morbides dont on se repaît dans tous les reportages et dans toute la littérature autour du sujet, et on essaiera de comprendre comment ça fonctionne, comment ça a émergé et comment ça a fonctionné. Parlons de l'Afrique du Sud. On n'en a jamais parlé. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, vous aurez droit à deux conférences pour connaître l'histoire de l'Afrique du Sud, qui est à nouveau compliquée. Et voilà un champ d'action où les provinces unies et les Anglais se sont battus pour la suprématie coloniale en Afrique du Sud. Puisque... les Hollandais étaient là les premiers et les Anglais les ont poussés. Et la fameuse guerre des bourgs de début du XXe siècle, qui était le champ expérimental de toutes les horreurs de la guerre 14 au niveau armement, c'était en fait des descendants des colons protestants, donc des provinces unies, parce que c'est tous des protestants, mais c'est pas le même genre, si vous voulez, devant les Anglais. Qui sont, je rappelle que la religion anglicane, elle est protestante dans le sens où elle refuse le pape, mais toute sa liturgie et tout son environnement, on va dire, religieux, est un clone complet de la religion catholique. Si vous allez dans une église anglicane, c'est même plus fun que dans la religion catholique. Il y a de la couleur, c'est bariolé, il y a du spectacle, alors que dans les temples, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Voilà. C'est pas la même sensibilité, on va dire. Donc, l'histoire de l'Afrique du Sud, évidemment, la deuxième partie, c'est toute l'histoire de l'apartheid et Nelson Mandela. On a, comme tous les ans, une conférence. Alors, on a remis les compteurs à zéro, puisqu'on avait fait tout un cycle sur l'histoire de l'hôpital, et on va revenir complètement aux origines. Donc on fait ça en partenariat avec le service de patrimoine de la ville, et donc Françoise Rasselbeuf, vous le savez, elle est présidente de l'association Abigail Mathieu, qui s'occupe du patrimoine immobilier de l'hôpital ancien. Et donc en général, cette conférence, elle précède l'Assemblée générale de l'association Abigail Mathieu qui se passe après cette conférence. En général, c'est un lundi. Madame Boussicaut. On va parler de Madame Boussicaut. Alors, c'est un nom qui est célèbre à Chalon, évidemment, mais une fois de plus, si vous interrogez les gens dans la rue, on n'est pas étouffé par le niveau des détails. Et donc, vous savez que madame, elle vient de nulle part, c'est-à-dire de Verjus ou de Jergy, je ne me souviens plus. Donc, vraiment, d'un milieu très simple, et elle a eu le bon goût d'épouser le fondateur de ce qu'on appelait le bon marché, qui a fait fortune, et après, elle a eu une action humanitaire tout à fait significative. On en a des témoignages à Chalon, puisque la fameuse maternité porte son nom, et l'avenue devant qui passe devant porte également son nom. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre. L'expérience montre qu'il faut toujours avoir une ou deux conférences d'histoire locale. Le XVIIe siècle, c'est aussi l'émergence de la science avec la signification qu'on lui donne. Alors, c'est moi qui vais faire cette conférence. L'émergence des académies des sciences et de la Royal Society. C'est l'équivalent anglais de l'Académie des sciences qui sont démarrées quasiment à la même époque. Et j'essaierai de montrer par quel mystère, c'est comme les sorcières. Pourquoi les académies des sciences sont sorties de nulle part à cette époque-là? Et effectivement, en Italie, en France, en Angleterre, et 50 ans après, en Allemagne, sont sortis les académies des sciences. Pourquoi ? Deuxièmement, puis je pose la question qui fâche, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et la question s'est posée dans tous les pays, parce qu'à un certain moment, ça sert simplement à dire j'ai une médaille de plus sur ma chemise, en disant... Et donc, le sujet est complexe, et je... je vais vous parler essentiellement du XVIIe siècle, mais je vais faire une extrapolation jusqu'à la période moderne, où les académies des sciences sont un peu invisibles médiatiquement, ce qui n'était pas le cas au XVIIe siècle. Et pourquoi c'est comme ça, et à quoi ça sert aujourd'hui ? On peut aussi, encore aujourd'hui, se poser la question, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, qu'en France. Donc, venez m'écouter si vous voulez tout savoir là-dessus. D'ailleurs, elle est prête, la conférence, je l'ai finie. J'ai découvert que... Je cite beaucoup de noms, évidemment. Et dans tous les noms que je cite, bon, il y en a peut-être 30 ou 40 ou 50. À un moment ou à un autre, je vous ai fait une conférence sur ces noms-là. Donc, bon... Puisqu'on parle de science, petit retour en arrière, on va parler d'Averroès. Voilà un des transmetteurs de la science entre le monde ancien et donc en Espagne. Donc, le monde musulman, il a été beaucoup critiqué, mais il a fait le chaînon manquant qui a permis à la science, qu'on appelle aujourd'hui occidentale, de se développer à partir du XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est notre ami Ahmed Djebar. Je rappelle qu'Ahmed Djebar, il a été ministre de l'Éducation nationale en Algérie entre 1992 et 1994, dans des conditions très difficiles. Et en plus, c'est un conférencier tout à fait extraordinaire. Histoire du tissage. Alors pourquoi on a pris cette conférence? Parce que c'est une proposition spontanée. C'est quelqu'un qui est à Dijon et qui a des petites maquettes qui peuvent se poser sur la table, qui permettent de comprendre, mais maquette vraiment toute petite, de comprendre comment ça marche. On vient de faire un voyage dans la région de Lille, un voyage UTB. On était 25, j'y étais. Et on a visité une installation qui s'appelle La Fabrique, où on a des machines à tisser depuis des machines très rustiques, antiques, et le métier jacquard, et jusqu'à des machines récentes de la fin du XXe siècle. Et donc on explique. Mais il y a une difficulté, ces machines sont d'une telle complexité qu'à part de dire il y a le fil de trame et le fil de... j'ai oublié le nom, de chaînes qui passent perpendiculairement. Quand vous regardez tout ça et ça va à toute vitesse, je ne suis pas sûr qu'on comprenne tout. En particulier, les machines jacquard, on a vu, alors j'étais stupéfait, des machines jacquard qui avaient des rubans en accordéon, enfin Michel, tu y étais, des paquets, des choses à des cartes perforées, si vous voulez. Il y en avait peut-être de chaque côté de la machine un millier qui pendouillaient pour faire l'équivalent de tapis en soie. C'était absolument extraordinaire. Donc, on va nous expliquer tout ça, l'histoire des techniques et on aura des travaux pratiques avec des petites maquettes qu'on nous posera sur la table. Alors, on a pris également un autre produit. Donc, je vous ai parlé du café, je vous ai parlé de la porcelaine. On va parler du tabac. Alors, ça, le tabac, c'est marrant, on le met toujours un petit peu au second plan. Je rappelle que le tabac, c'est lui qui a été historiquement à l'origine du début de l'esclavage massif aux États-Unis. Avant le coton, hein. Le tabac, c'était la première production, la Virginie, et tout. Ah, mais bien sûr, maintenant, plus rien, il ne faut plus fumer, et tout. Mais bon, on va nous parler de tout ça. Molière, on y vient, donc c'est en littérature, bien évidemment. Mais il faut aussi qu'on parle de Corneille, puisque les deux travaillent ensemble. Vous savez qu'il y a des thèses hétérodoxes qui disent que c'est Corneille qui a écrit les comédies de Molière. Bon, ce sera sûrement évoqué dans les conférences, puisque malheureusement, on n'a aucun autographe de Molière. On n'a aucun papier écrit de sa main. Donc, toutes les comédies de Molière sont uniquement imprimées. Donc, on n'a pas la preuve formelle que c'est Molière qui les a écrites. Hein ? Alors, bon, tout le monde a toujours dit que c'était lui qui les avait écrites, mais bon, voilà. Molière, c'est un comédien. Hein ? En littérature, eh bien, évidemment, on ne pouvait pas échapper à Pascal. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on a fait le couplage avec le jansénisme. Vous savez qu'il y a un lien très fort avec le jansénisme. Lui n'était pas forcément janséniste au sens philosophique du terme, mais il a aidé les jansénistes grâce aux fameuses provinciales, qui sont toutes les polémiques autour du jansénisme. Il a aidé à la défense des idées du jansénisme. Et sa sœur était religieuse à Notre-Dame-des-Champs, vous le savez. Alors, Molière, ce sera celle que j'évoquais avant, c'est sa biographie, hein, la vie de Molière, et ensuite, on va quand même parler spécifiquement des comédies de Molière. Voilà. Et puis, on mettra un autre personnage important, Jean de La Fontaine, qui était un peu aussi dans la mouvance janséniste, d'ailleurs, et qui était... malheureusement pour lui, il est un protégé de Fouquet. Alors Fouquet, il est passé à la trappe, et donc après, ben, ma foi, il a fait au mieux. Hein, voilà. Mais un homme extrêmement brillant. Et un thème qui est en stock depuis des années, parce que les péripéties du Covid l'ont fait repousser ad vitam aeternam, les figures de style. Donc c'est la rhétorique, si vous voulez, d'une certaine manière, les figures de style. Qu'est-ce que c'est que les figures de style dans la langue française et comment on les applique dans la vie courante sans savoir ce sont des figures de style. Voilà un outil, j'aime bien le titre, « Comment lire à la recherche du temps perdu ». Certains d'entre vous ont peut-être essayé de se colter avec Proust, c'est difficile. Alors, il y a les aficionados inconditionnels et les autres, on va dire. Et donc, Daniel Creusot, je rappelle, il a été très longtemps conférencier à l'UTB de Chalon, maintenant il habite à Chalon, mais il a pris la présidence des Amis du Musée de Nantes. Donc il avait décliné le fait de revenir faire des conférences de littérature. Là, il a un peu mis le pied dans la porte, puisqu'on travaille avec lui sur d'autres sujets. Il a dit, bah, tiens, si vous voulez, je peux vous parler de ça. Bah, j'ai dit, bien sûr, bienvenue, retour au club, voilà. Et Dostoïevski. Alors pourquoi Dostoïevski ? Ben, Monsieur Comte, qui est venu nous parler de l'Ukraine, initialement, il devait nous parler de Dostoïevski. C'est un professeur de littérature russe. Mais on le connaît bien, on lui a dit, ben, l'Ukraine, ça... Ben, ouais, d'accord, je suis d'accord pour faire un truc sur l'Ukraine, qui était génial. Mais maintenant, quand il a eu fini, il dit, bon, l'année prochaine, je fais Dostoïevski. Ok, pas de problème, vous revenez. Donc il est à la retraite maintenant et il était à la Sorbonne. C'était un collègue de travail de François Kersaudy. François Kersaudy à la Sorbonne était professeur d'histoire et c'était un collègue de travail. Ils ont le même âge. Et en littérature, encore le 17e, alors Monsieur Molière, les habillés pour l'hiver, hein, les précieuses, on n'a pas mis ridicule, mais les précieuses, qui est un phénomène très particulier du 17e siècle, une façon un petit peu pour une certaine coterie de dames de se mettre en lumière. Évidemment, tous les gens mâles les a essayé de les ridiculiser, pas souvent avec beaucoup de bonheur. Voilà. Et encore en littérature, donc André Breton, alors ça c'est aussi, donc c'est Françoise qui va le faire, à deux voix avec Catherine Westman, donc le pape du surréalisme, le manifeste du surréalisme. Maintenant, on a une thématique un peu globale qu'on appelle question de société. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est de dire, c'est des conférences, on va dire un peu de sociologie, en disant quels sont les grands sujets de société du moment. Et l'engagement féminin, bien sûr, s'en est un. Donc, Madame Husson-Robert, qui est déjà venue plusieurs fois ici, qui est manifestement une féministe convaincue et sinon militante, et elle fait ça très bien, elle va dire, ben voilà, je vais vous expliquer tout ça, hein, sur des exemples précis. Et la fameuse conférence sur le pain dont je vous ai parlé au début, en fait c'est une amie, c'est une membre du bureau là, de l'UTB, qu'il connaît à titre personnel, et c'est la nouvelle mode des pains de tout poil qui se font dans les boulangeries, on va dire, évoluées. Et il fait ça à Paris, et donc il fait beaucoup de buzz autour de ça. Et donc il viendra faire le buzz. Je ne sais pas s'il va nous amener du pain tout fait du matin. On verra, on a mis nos petits flyers à la Micaline, donc c'est aussi en association avec la Micaline, hein, et pour que ben il y ait un public différent de notre public habituel qui vienne un peu nous écouter. Donc c'est une conférence qui est gratuite, même pour les gens qui ne sont pas de l'UTB, pour essayer d'attirer des nouveaux adhérents. Voilà. Alors. Le métavers, le métaverse, ça c'est une graphie à la française, un concept nouveau. C'est un concept nouveau auquel on comprend rien. Hein, c'est pour ça qu'on vous fait une conférence là-dessus. Alors c'est quoi le métaverse? Ça veut dire quoi métaverse? Ça veut dire, c'est une contraction, méta-univers, c'est-à-dire au-delà de l'univers. C'est un univers virtuel. Donc avec tous les outils informatiques, on dit, ben, on va inventer ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des personnages fictifs, mais qui peuvent être votre représentant dans ce monde virtuel. Alors, personnellement, ça ne me branche pas du tout, et peut-être beaucoup d'entre vous, mais c'est intéressant, et Michel Bonnet, qui suit toute l'actualité du web en permanence, je pense qu'il aura un regard, et il est suffisamment pédagogue pour essayer de nous faire comprendre de quoi il s'agit. Hein, voilà. Je rappelle, ça c'est un point important, c'est qu'on est une quote-part dans nos conférences qui parle de sujets vraiment extrêmement d'actualité, pas seulement de l'art à travers les siècles, de l'histoire, des choses comme ça, d'avoir des choses très concrètes sur les problématiques du moment. Alors, question de société, eh bien... notre ami Stéphane Le Quidic, qui faisait des conférences de littérature, histoire-littérature, on va dire, je lui ai demandé de faire une histoire de la presse. Parce que ça, on ne l'a jamais véritablement fait. Hein. Donc, un nom magique, c'est Théophras Renaudot, qui est l'inventeur, on va dire, du journal, enfin d'un journal quotidien. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que la presse du canard au Pulitzer. Pulitzer, vous savez, Pulitzer, c'était un journaliste new-yorkais il y a un prix célèbre, c'est l'équivalent de Goncourt, si vous voulez, au niveau médiatique aux États-Unis. Si vous avez le Pulitzer, c'est l'équivalent d'un Goncourt en France. Et le Pulitzer, en fait, c'était un journaliste de feuille à scandale. C'était pas un gars qui avait une éthique extraordinaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a donné le nom du prix, le plus prestigieux, par l'éditeur d'une feuille de chou à scandale, Monsieur Pulitzer. Bon, alors le canard, c'est pas la peine que je vous dise qu'est-ce qu'est le canard. Mais il va nous le dire exactement ce que c'est. Et l'histoire du canard aussi, ça mérite de l'écouter, parce qu'elle est totalement méconnue. Et bon, le canard, je le dis toujours, c'est le seul journal subventionné par le gouvernement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de publicité dans le canard. Et comme toute la presse bénéficie d'exemptions fiscale, ne serait-ce que sur les abonnements et sur les expéditions des abonnements, c'est le seul journal uniquement subventionné par le gouvernement. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de publicité dans le canard. La presse entre censure et affaire, vous savez que la presse, elle sert de punching ball à la rancœur de tout le public, en disant on est là pour les étriller, mais enfin on est bien content qu'elle existe, surtout quand elle dit des choses contradictoires, et puis bon, l'évolution de la presse. Et voilà la vedette qui va venir, Jean-François Kahn. D'ailleurs, je me suis trompé dans l'orthographe, le H il n'est pas au bon endroit. Jean-François Kahn, qui était le directeur de Marianne, qui a fait des tas de trucs, qui habite pas très loin en Bourgogne, là, Noyers-sur-Serein, et à l'occasion d'une rencontre, on lui a dit, mais venez donc chez nous, alors que qui vous êtes, vous, hein? Axel Kahn, son frère, cadet, qui est mort récemment, là, il vient chez nous. Ah bon, bon, bah, d'accord, bah, je veux bien venir. Donc voilà. Le scoop d'aujourd'hui, Axel Kahn. Ce sera au mois de Jean-François Kahn. Paix à son âme. On a passé des moments absolument délicieux avec Axel Kahn en privé, à l'occasion de ses passages ici. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnalités comme ça. Hein. Voilà. Et deuxième scoop, c'est ça. Alors, vous ne le connaissez pas. Ce sujet des cyberguerres, donc les guerres sur Internet, ça vient de l'actualité. Avec l'Ukraine, on est au cœur du sujet. Et le problème, c'est de trouver quelqu'un qui est compétent en la matière. Et après des péripéties diverses et variées, j'ai ferré le bon poisson, c'est M. Nicolas Arpadjian, qui est hyper occupé. Regardez ce qu'il fait. Il va à l'École nationale supérieure de la police, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l'École de guerre économique. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais donc, il est connu dans le milieu, si vous voulez. Et d'après ses sponsors qui m'ont permis de le trouver, ils m'ont dit, c'est lui le meilleur en France. Hein. Et il a accepté de venir alors qu'il a un agenda de ministre. Hein. Donc, je suis très fier d'avoir accroché cette personnalité. Alors, maintenant, je mets un cierge pour qu'il tienne sa promesse. Qui écrite, hein, qui viennent bien, donc ce sera le 17 novembre, ici. Sociologie de la presse, hein, Monsieur Mouni, il est venu faire tout un cycle de conférences de sociologie les années passées, puis là il avait un petit peu arrêté, on l'a resollicité à nouveau, parce qu'il a été directeur de l'IUT, mais il est de formation sociologue. Et ben, quels sont les ressorts psychologiques qui font que la presse existe, hein, ça, on l'analyse peu souvent, et surtout la presse en elle-même, elle est très frileuse sur toute autocritique, puisque la presse, elle est avec un grand P majuscule, et elle est intouchable, et donc le tableau est moins idyllique que la presse veut bien le dire. Donc, il essaiera de nous faire comprendre tout l'arrière-plan de cette, le fameux quatrième pouvoir, comme on dit. Voilà. Le transport aérien civil après 1945. M. Lyonnais a fait ce qui s'est passé entre les deux guerres. L'idée d'avoir un transport aérien civil, elle est arrivée en 1918-1920. Avant, il y avait un pilote et un passager derrière. Après, on a pu faire des avions qui prenaient plusieurs passagers jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale étant terminée, ben vous connaissez tous ce qui s'est passé, le turboréacteur qui fait qu'on sait faire des avions gigantesques qui sillonnent le monde entier. Maintenant, c'est très mal vu de monter dans un avion pour les raisons que vous savez, mais c'est toujours intéressant d'avoir tout ça. Et je pense que même aucun technicien en 1945 aurait osé imaginer l'évolution tout à fait spectaculaire de ce... segment de l'activité humaine. Alors, la philosophie, on a notre professeur de philosophie qui est là, hein, il est venu vérifier que j'avais bien mis sa conférence dans ma présentation, et qui va nous parler de Schopenhauer. Voilà, donc il a bien une tête de philosophe. Hein. Quand on regarde le tableau, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? On voit qu'il est un peu allumé, donc ça doit être un philosophe. Hein, voilà, hein, voilà. Mais Michel, il n'a pas tellement une tête de philosophe, il a une tête normale. Voilà. Bon. Je blague, hein, bien sûr. Hein. Et notre deuxième philosophe de service, Pierre Guénantien, nous a proposé une thématique un petit peu transversale. Qu'est-ce que l'identité? Alors l'identité, ça fait 20 ans qu'on parle de ça en long, en large et en travers, en le mettant tout et n'importe quoi derrière ce concept. Alors je pense qu'il va nous refaire un tour d'horizon et de tout ce que les philosophes ont pu raconter sur le sujet. Et comme il est brillant et qu'il est très à l'aise dans ses exposés philosophiques, on n'est pas inquiet du résultat. Et notre troisième philosophe, Madame Simonin, donc le hasard, une approche philosophique. Alors, on va parler d'économie et de droit. Hein. Encore un sujet d'actualité qu'on a choisi il y a 6 mois déjà, même plus, 9 mois. Et là, vous regardez les journaux économiques, le mot « banque centrale », il est dans tous les articles. Mais finalement, on ne comprend pas bien comment ça marche. Donc l'objectif, c'est de nous faire comprendre tous ces mécanismes de banque centrale, surtout banque centrale européenne, qui est une banque supranationale. Parce que quand on dit banque centrale, c'est associé à un État. Hein. Et on a réussi à inventer un système. Enfin, il y a déjà la Banque mondiale, mais là, c'est encore pire. Mais banque centrale européenne, on lui fait dire ce qu'on a envie d'entendre. Quoi. Suivant les sensibilités politiques des uns ou des autres, bon, on dit « Ah ben non, elle doit faire ci, non, elle ne doit pas faire ça ». Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement, déjà, au premier degré, hein, voilà. Alors ça, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur depuis des années et des années. C'est la place des ONG dans le droit international. Les ONG, comme le nom l'indique, c'est organisation non gouvernementale. Donc, c'est un zombie juridique, puisque c'est non gouvernemental. Donc ça ne dépend pas d'un État, donc il faut qu'un État donne l'autorisation de faire des associations, puisque c'est un statut associatif, mais c'est des associations multinationales. Alors c'est un machin dont on parle tous les jours, mais dont la réalité juridique est un peu évanescente. Hein. On avait eu, il y a 15 ans, une conférence là-dessus. Au bout d'une heure et demie, le gars nous avait dit, ben, on ne sait pas définir juridiquement des ONG. Pourtant, on en parle en permanence. Donc, ben, Madame Tourard, comme vous le savez, elle est spécialiste de droit international, donc elle va nous expliquer tout ça, j'espère, avec beaucoup de clarté, comme d'habitude. Et puis, on a embauché un édile du Grand Chalon, M. Sébastien Rago, qui est donc en charge au Grand Chalon de l'enseignement supérieur. Ah, M. Rago, c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est sa famille, enfin son père, c'était le Givry. Hein. Donc, il sort des vignes. Mais lui, c'est un mouton noir puisqu'il a fait des études de droit. Hein. Donc, voilà. Et donc, accessoirement, il est également professeur de droit. Hein. Et il a accepté de nous parler de la Constitution et de la vie publique française. Donc là, j'ai mis la photo célébrissime de monsieur Debré qui appose le sceau sur la Constitution de 1958. Vous savez, la Constitution de 1958 qui a tous les défauts du monde, comme on l'entend du matin jusqu'au soir, elle va fêter maintenant son... ça fait 58, ça fait 64e anniversaire. Ben, il n'y a pas beaucoup de constitutions en France qui ont duré aussi longtemps. Hein. Et alors il y a beaucoup de gens qui ont envie de la changer, mais personne n'a les mêmes idées sur ce qu'il faudrait mettre dedans. Voilà, bien sûr, par définition. Alors je vais encore vous refaire une autre conférence sur les métaux rares. Alors, j'ai pas mis les terres rares, les métaux rares, parce que on a eu un exposé sur ce sujet dans le groupe économie et géopolitique, qui était centré sur les terres rares. Alors, en fait, les terres rares, elles sont pas rares, il y en a partout. Le problème, c'est qu'elles sont très disséminées à des doses infinitésimales. Et donc, il n'y a que les petits Chinois qui peuvent se permettre de faire des choses qu'on n'accepterait plus dans les pays occidentaux. Et c'est pour ça qu'on leur achète pas du gaz, mais des terres rares. Et le jour où on dira c'est fini, on aura le même problème qu'avec M. Poutine. Voilà. Mais les métaux rares, il y en a d'autres, c'est des métaux qui sont, j'en cite qu'un, c'est le cuivre. Le cuivre, c'est méconnu. Il y a, d'abord, il n'est pas universellement répandu géographiquement, mais en plus, quantitativement, si on se mettait, en particulier avec la transition énergétique, les projections laissent à penser qu'il en faudrait 10 fois plus que ce qu'on en consomme maintenant. Et au bout de 20 ans, il n'y en a plus. Donc, souvent, on ne voit pas la paille, la poutre qu'on a dans l'œil. Donc, je vous expliquerai tout ça. Alors, dans le cadre justement de ce groupe économie et géopolitique, qui est un groupe de réflexion, pas de réflexion, mais enfin de présentation, d'exposé un petit peu assis là, et depuis 2-3 ans, on a eu des exposés tout à fait brillants, faits par des adhérents de l'UTB, et moi je leur ai demandé, ben écoutez, c'est tellement bon votre exposé, que vous faut pas le réserver aux initiés qui participent au groupe, vous allez le faire en conférence plénière. Alors je lui ai dit, Monsieur Babou, c'est un adhérent, il est pas là, mais un adhérent de l'UTB, eh ben d'accord, je veux bien. Et surtout, donc le géopolitique mondiale de l'agriculture, au moment où on a pris ce sujet-là, la sécheresse n'était pas encore passée par là. Hein. Mais enfin bon, ça renforce l'intérêt du sujet. Et puis deuxièmement, Monsieur Babou, il était cadre dans l'industrie sucrière dans le nord de la France. Donc c'est un sujet au moins sur son expérience professionnelle qu'il connaît quand même bien à titre personnel. Et de la même façon, Martine Thomas, qui n'est pas là non plus, nous avait fait. Alors je rappelle Martine Thomas, elle est médecin à la retraite, bien sûr. Comme tous ceux qui sont dans la salle. Martine Thomas, elle adore faire des exposés sur des sujets qui ne sont pas de sa spécialité universitaire. et elle avait pris, ce que vous avez vu dans tous les magazines, les routes de la soie, c'est-à-dire les fameuses infrastructures proposées par les Chinois pour sillonner le monde entier et arroser la planète entière. Alors, on crie au loup contre les Chinois, sauf que je rappelle que les Anglais, les Français et les Allemands ont fait exactement la même chose dans l'autre sens à la fin du 19e siècle. Et là, personne criait au loup, il n'y avait pas de contradicteur de l'autre côté. Maintenant, évidemment, nous, on a arrêté de faire ce genre de sport parce qu'on n'a plus les moyens. Mais les Chinois, eux, ils ont des sous, puisque, et donc ils proposent de le faire. Donc, on va écouter tout ça, et son exposé est également de grande qualité. Alors, Monsieur Benoît, vous connaissez tous Monsieur Bruno Benoît, un grand, je l'appelle le batteur d'estrade, hein, c'est-à-dire, c'est du café-théâtre aussi, mais sérieux, cette fois-là. Et je lui ai demandé qu'il nous parle des ex-pays de l'Est, comment elles se situent dans l'environnement actuel. Donc là aussi, vous êtes gavés d'articles dans tous les magazines et dans tous les journaux, mais c'est tellement dilué et diffus qu'on a du mal à s'y retrouver. Pourquoi la Pologne? Pourquoi la Hongrie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc chaque pays a aussi un parcours particulier. Donc il va essayer de faire une synthèse un petit peu de toutes ces choses-là par rapport à l'évolution actuelle du monde. Et puis, autre aspect, il y a aussi beaucoup d'articles dans la presse, quelle est l'évolution de la société française au sens sociologique du terme. Alors, il y a beaucoup de... Je cite M. Fourquet, par exemple, des auteurs qui sont... Et M. Guilly, qui dit la France des périphéries, de ceci, de cela. Donc, essaie de comprendre comment tout ça fonctionne. Et vous savez très bien que la société française, mais il n'y a pas que la société française, mais la société française en particulier, elle est quand même un peu plus éclatée qu'elle a été. Si vous voulez, la lutte des classes, c'est un peu... brouillé maintenant par la complexité de la structure de la société. Donc il va essayer de nous faire une synthèse sur cet aspect-là. Et l'amiral Alain Coldefy, alors là je remets une deuxième bougie parce que lui aussi il a un agenda de ministre qui vient depuis plusieurs années. Je lui avais demandé de faire la militarisation de l'espace. Et à nouveau, au moment où on a choisi le sujet, on peut difficilement imaginer une évolution aussi rapide en disant c'est 10 fois plus d'actualité aujourd'hui où je vous parle qu'au moment où on a choisi le sujet au début de l'année. Donc, je cite qu'un seul cas potentiel, et ça se fait déjà partiellement, c'est par exemple le brouillage du GPS. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la capacité technique de bousiller tout le GPS. Alors, ça vous embêterait pour conduire votre voiture, mais ça embêterait beaucoup plus tous les avions et tous les navires qui voguent sur la planète. Donc, on ne sait pas faire de brouillage sélectif. Il y a des épées de Damoclès à travers tous ces outils qui sont très forts. Et pourquoi l'Europe a fait Galileo, par exemple, c'est-à-dire un GPS européen, pour dire si un jour le GPS, qui je rappelle est américain, est en panne ou est indisponible, on a une roue de secours. Je rappelle, les Russes et les Chinois ont leur propre GPS depuis le début. Donc il n'y a que 4 systèmes de GPS au monde, donc les Américains. Ça s'appelle GPS, c'est le nom de générique, les Russes, l'Europe et les Chinois. Mais il n'y a pas que ça. Donc dans l'espace, il s'en passe des choses. Monsieur Michaud, qui nous fait des monographies sur tous les pays du monde. Alors là, je n'ai pas pu résister parce que l'histoire des métaux, c'est un peu lié à ça. J'ai mis exprès une mine de nickel, puisque vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a du nickel. Comme on dit, comme disait M. Castex, notre brillant Premier ministre, il a dit, ah ben oui, nous, on a beaucoup, en France, on a beaucoup de nickel. D'accord. À l'autre bout du monde. Voilà. Et l'intérêt de Nouvelle-Calédonie, c'est que M. Michaud, qui fait des piges comme enseignant retraité dans des pays francophones tout autour de la planète, il a vécu et enseigné en Nouvelle-Calédonie. Donc, à titre personnel, il a un vécu tout à fait significatif sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis, on va terminer avec les sciences et techniques. On en a un petit peu parlé sur d'autres sujets. Donc, vous voyez la variété de nos thématiques. Hein. Donc, astronomie, biologie, paléontologie, physique, chimie, technologie. Alors, on les passe en revue. Alors, voyage dans le temps avec l'ADN fossile. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on sait faire des prélèvements d'ADN dans les dents des dinosaures pour savoir quel est... Alors, les dinosaures, c'est un intérêt relatif, mais plutôt les gens de Néandertal et donc tous les gens qui ont vécu en même temps qu'Homo sapiens. Et avec ces analyses-là, on a un nouvel outil qui nous permet de retracer un petit peu tous les mouvements de population. Le résultat à l'instant T, c'est que c'est vachement plus compliqué que l'idée qu'on s'en faisait jusqu'à présent. Donc, il va nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on en tire. Les lasers et leurs applications. Donc, alors là, j'ai mis un laser de soudage ou, je sais pas, ou de gravure, je ne me souviens plus. Ça n'a pas d'importance. Mais vous savez, le laser, par exemple, on l'utilise également pour faire les opérations de la cataracte. En chirurgie, c'est très utilisé. Enfin, pour découper le tissu. Enfin, il y a un nombre incalculable d'applications du laser. Je le dis d'autant plus que au moment où on a inventé les lasers, on va dire dans les années 70, tout le monde disait bah, c'est un bijou de laboratoire, mais on se demande bien qu'est-ce qu'on va foutre de ce machin-là. Et même les gens qui l'ont inventé n'imaginaient pas toutes les applications qu'on pourrait en faire. Et puis, la Lune, pourquoi la Lune? Ben, tout simplement, au premier degré, parce que M. Cosseret, qui n'est jamais venu, parce que notre conférencier, comme je l'ai dit au mois de mai, notre conférencier astronome, M. Bonin, Michel Bonin, a émigré loin de la Bourgogne, et il est en Normandie, parce qu'il est près de ses enfants, bon. C'est son problème, et ça lui casse un peu les pieds maintenant de venir faire des conférences à Chalon. Et donc il a trouvé un successeur qui lui est à Dijon et qui était dans les sociétés astronomiques de Bourgogne, là. Donc c'est un spécialiste tout à fait correct. Et il a dit, comme vous ne me connaissez pas, je vais commencer par faire des conférences plus, on va dire, grand public, sans que ce soit péjoratif. Donc, je vais vous faire une conférence un petit peu, ce qui n'est pas d'astronomie, mais tout ce qu'on a accroché à la Lune, hein, au clair de la Lune, hein, mon ami Pierrot, mais bon, c'est une autre histoire, ça. Donc, on va écouter avec intérêt cette chose-là. C'était simplement pour introduire sa deuxième conférence, qui est Destination Lune. Donc, ça va être, ben, c'est d'actualité, puisque la fusée qui devait partir, ben, elle part toujours pas parce qu'il y a un problème. Donc, le voyage sur la Lune revient d'actualité. La sécheresse, encore une fois, on a choisi ce sujet au mois de janvier. Il n'y avait aucune prémonition du fait qu'on aurait une sécheresse telle qu'on l'a connue. Les vignobles bourguignons face au changement climatique, quels impacts, comment s'adapter? Monsieur Bourque, qui est à l'INRA à Dijon, va nous expliquer tout ça. Il l'explique très bien. C'est un spécialiste de la vigne. « l'année dernière, enfin la saison précédente, on a écouté Monsieur Lecointre. Je ne sais pas si quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un super pointu en théorie de l'évolution et qui dit ben, que la théorie de l'évolution, c'est vachement compliqué. Et qu'est-ce que l'adaptation en biologie ? Alors, la conclusion de sa conférence d'il y a quelques mois, finalement, c'était au mois d'avril, je crois, c'est ben, l'évolution, ça se passe même au niveau cellulaire. Chose qu'on ne connaissait, on pensait que c'était uniquement une question d'espèces, d'organismes constitués. Et on s'aperçoit aujourd'hui ben, que ça se passe même au niveau cellulaire. Donc, il va nous resituer cette problématique sur des êtres vivants, mais vous voyez qu'ils sont très, très variés, des plus frustres aux plus évolués. Alors là, je peux pas. Alors, là, pourquoi on a mis cette conférence ? Tout simplement, alors là aussi, on a été gavé d'articles de reportages télé. Je ne suis pas persuadé que tout le monde ait bien capté l'ARN messager. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le messager, quel message il apporte, etc. Bon, c'est compliqué. Donc, on a demandé à M. Neyers, qui est déjà venu nous parler de l'odorat en particulier, qui est un grand spécialiste de la chose, c'est aussi un bon pédagogue, de nous expliquer que tout ça, comment ça marche. Hein. L'ARN messager, je rappelle qu'on sait que ça existe depuis, allez, je vais être gentil, 1970. C'est monsieur Jacob, Wolf et Monod qui l'ont découvert. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. Hein. Donc c'est pas vieux. Hein, c'est pas vieux. On fait revenir M. Malvézy parce qu'on lui avait fait faire une conférence sur c'est un ami là qui habite à Montbéliard, mais qui travaille en Suisse là pour le moment, qui est aussi un spécialiste de l'histoire de l'évolution. Et il avait fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau en paléontologie ? Il a surtout parlé des vers de terre et des choses comme ça. Alors les gens avaient été un peu déçus. Ils s'attendaient à ce qu'on parle surtout de la paléontologie humaine. Mais ce n'était pas marqué dans le titre. Donc on fait un reset et il va nous parler de l'évolution de la paléontologie humaine. Comme je vous l'ai dit avec l'ADN fossile, est vachement plus compliqué que l'idée qu'on s'en faisait il y a encore seulement 10 ans. Notre ami Jean-Marie Vigoureux nous a proposé, il adore les sujets comme ça un peu, les vibrations au quotidien. Alors il va nous montrer, ça je le connais bien, que des phénomènes qui font appel à des vibrations, il y en a partout. En particulier, je suis en train de vous parler, je vous envoie sans arrêt des vibrations à travers tout ce bazar électronique. Mais il n'y a pas que là qu'il y a des vibrations, il y en a partout. Donc, en particulier dans la lumière, etc. etc. Et il va nous réexpliquer tout ça. Sujet d'actualité, la chimie dans notre quotidien. Alors, je ne pouvais pas me... je vous ai mis une belle image, vous avez tous compris. Ah, il y a non seulement ce qu'il y a dans les bouteilles, mais il y a aussi les bouteilles elles-mêmes. Donc la chimie, elle est partout. Regardez autour de vous, tout ce que vous avez comme vêtements, c'est de la chimie. Tous nos appareils, il y a que la tablette en bois là, qui est au-dessus, qui n'est pas de la chimie. Voilà. Les chaises, bon, la chimie, la peinture, la chimie, il y en a partout. Donc vous prendrez la mesure. Alors c'est très bien de dire après il faut tout faire avec des trucs naturels. On s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Les cancers de la peau, ça on le fera en visioconférence parce que les deux dames, là, les deux jumelles, Souria et Anna Assaoui, deux belles dames qui sont là en 45, et c'est deux jumelles, qui ont été les deux premiers docteurs en médecine génétique en France. Docteur d'État. Alors, bon, Alors, par contre, ben, elles sont brillantes et elles bossent. Et pour les avoir en duo, ben, maintenant elles habitent à 200 km l'une de l'autre, on fera une visio à trois voix. Quoi, hein, et donc on les passera à la télé dans la salle. Sur les cancers de la peau, voilà. Ah voilà, on a parlé dans les journaux de l'EPR2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est les nouveaux réacteurs nucléaires, c'est-à-dire, on va dire, c'est le Flamanville optimisé, puisque Flamanville, vous savez tous que c'est une catastrophe économique. Ça a coûté 4 fois le prix qui était prévu au départ, pour des tas de raisons. Mais en fait, une des raisons, c'est trop compliqué et on ne savait plus faire. Donc aujourd'hui, on réapprend à faire et on remet ça sur la planche et on va faire des choses plus adaptées de telle façon que ça coûte moins cher. Donc on a demandé au directeur de projet d'EDF, M. Gabriel Oblin, polytechnicien évidemment, de venir nous en parler. Et je conclue. Oh, c'est presque tenu, là. Donc on a l'habitude, alors évidemment avec le Covid ça a un peu foutu le bazar, de faire des animations avec la bibliothèque municipale. Alors on avait remis au programme depuis 2 ans les globes de la salle de lecture, on avait fait ça il y a 10 années et ça vaut le coup d'être recommencé. Manque de peau, il y a encore des problèmes avec le... Alors j'avais mis un autre sujet sur la plaquette là qui est bleue là, qui était la presse quotidienne dans l'entre-deux-guerres. Ça les branche pas et en plus ils ont eu des départs, mais enfin la dernière fois que j'ai eu un contact avec eux, ils ont le moral dans les godasses parce qu'ils ont en plus un problème, c'est qu'ils doivent faire des travaux dans le fonds ancien de la bibliothèque et ils vont déménager le fonds ancien de la bibliothèque aux archives municipales à Châtenois. Et donc alors on a balayé un petit peu les sujets qu'on pourrait faire, parce que pour faire une animation avec autour des livres, il faut que les livres soient attractifs au sens visuel du terme. Donc ouvrir un livre n'importe lequel qui est écrit, et puis de se pencher dessus, bon, même s'il est ancien et qu'il est bien, bien élimé, bon, à part si vous avez des enluminures, c'est pas très spectaculaire, si vous voulez. Hein. On a fait, quand on a fait l'encyclopédie où on a fait la description de l'Égypte, là, ça vaut le coup. Il y a du spectacle. Donc, les globes, il y a du spectacle. Donc, toute la difficulté, c'est de trouver un sujet qui permette de montrer des choses qui sont attractives. Et donc, ce que Madame Joannelle, qui est responsable du Fonds ancien, m'a proposé, c'est les carnets de fêtes pendant le grand siècle. C'est-à-dire, il y avait toute une littérature qui préparait les gens à décrire les fêtes royales ducales qui allaient être faites. C'était l'équivalent de notre petit bouquin bleu, si vous voulez, notre petite plaquette. Et il y a des choses tout à fait extraordinaires, parce que là, il y a des gravures, et on en prend plein les yeux. Donc on va essayer de faire ça sous réserve que les conditions matérielles soient possibles à la bibliothèque. Bon, c'est sans garantie. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation, j'ai pratiquement tenu l'horaire. Vous avez le droit de me poser des questions. Vous avez tout compris. Donc je vous rappelle, prenez... Oui, oui, oui. Oui. Non, non, ça va être en groupe, guidé. Oui, oui. Oui, oui, il y aura un transport en car. Ben, oui, oui, oui. Toutes les visites qu'on propose, c'est avec un bus, il n'y a pas de problème. Et c'est la conférencière, Madame Vassec, qui fera le guide, hein, bien sûr. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. Et puis. Venez vous inscrire à l'UTB et surtout attirez vos amis pour venir grossir nos rangs. Voilà. Merci beaucoup.